C'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Jean-Michel Blanquer fait sa rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale était tout sourire cet après-midi, mais il n'a pas convaincu l'UNSA qui parle d'improvisation autour de la réforme du bac. Depuis hier, une pénurie de boîtes de vitesse fabriquées par l'usine PSA de Valenciennes bloque la production de la Peugeot 308 à Sochaux. Pour la CGT, c'est la conséquence de la politique de réduction des coûts menée par la direction. Le syndicat réclame des embauches et des investissements. En Russie, Vladimir Poutine annonce un assouplissement de la réforme des retraites, une réforme très impopulaire qui avait fait sortir des milliers de Russes dans les rues. Et puis l'Allemagne vient de remettre à la Namibie des ossements de membres des tribus Herero et Nama exterminés durant la période coloniale. Un geste de réconciliation jugé cependant insuffisant par les descendants des victimes qui exigent des excuses officielles. La rentrée doit être un moment de désir, de bonheur, un moment heureux, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui le dit. Jean-Michel Blanquer, satisfait de l'année passée et très confiant pour la rentrée à venir. Hakim Kasmi, vous avez suivi pour nous la conférence de presse du ministre de l'Éducation qui, pour être honnête, n'a pas fait de déclaration fracassante, mais plutôt un point assez général sur les dispositifs en place.
Amplifier le sillon de mesures mises en place depuis le début du quinquennat, c'est la philosophie de Jean-Michel Blanquer en cette rentrée. Après les dédoublements en CP, désormais ils sont mis en place en CE1 dans 75% des établissements. Jean-Michel Blanquer qui souhaite également augmenter le nombre d'évaluations. Après les CP l'année dernière, elles seront désormais mises en place en CE1 dès cette année, mais aussi en 6e et en 2e. Un choix qu'assure le ministre de l'Éducation.
L'objectif, c'est d'avoir un outil qui permet d'aider les professeurs à faire progresser encore plus les élèves, d'avoir un outil aussi de dialogue entre l'école et les parents, puisque c'est bien en début d'année de se dire voilà les forces et les faiblesses de votre enfant, voilà ce que nous allons faire pour que ça avance, et c'est quelque chose de très objectivé. Si par exemple, vous vous rendez compte que sur un territoire donné, les élèves sont particulièrement faibles en grammaire, bien vous déclenchez une formation continue adaptée dans ce domaine-là, dans un domaine éventuellement même encore plus précis, pour compenser cette difficulté. C'est à ça que ça sert les évaluations. Les évaluations, ça sert à pointer les difficultés pour les résoudre. C'est tout.
Des évaluations qualifiées d'anxiogènes par les syndicats pour Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA. Elles auront aussi pour but d'évaluer les enseignants, mais aussi les établissements.
On est parti d'évaluations nationales qui étaient là pour être des outils pédagogiques et on voit qu'elles se transforment en outils d'évaluation des politiques publiques. Est-ce que ça veut dire que c'est carrément une évaluation des écoles, des collèges, des lycées? On a entendu parler de rémunération au mérite. Le risque au fond de tout ça, c'est de se mettre à préparer nos élèves à répondre à des exercices qui serviront à nous noter, nous professionnellement les enseignants. Et si jamais on se met à faire ça, on perd complètement le sens de ce qu'on a à faire à l'école.
Enfin, Jean-Michel Blanquer a confirmé la prime de 1 000 euros pour les enseignants en REP+, une prime qui à terme devrait atteindre les 3 000 euros dans les prochaines années.
Hakim Kasmi depuis le ministère de l'Éducation nationale avec Gilles Gallinaro à la technique. La visite de Carlos Tavares hier à l'usine PSA de Trites-Saint-Léger près de Valenciennes a provoqué la colère des syndicats. Le patron de PSA Peugeot Citroën a demandé aux Valenciennois d'augmenter leur production de boîtes de vitesse, de passer de 1 800 boîtiers par jour à 3 000, car en attendant, d'autres sites qui assemblent des voitures tournent au ralenti. Pour les syndicats, la nouvelle cadence demandée est impossible. L'usine est dans l'incapacité d'assurer un tel rythme de production, explique Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT du groupe. Il est interrogé par Ersin Lebovitch.
Pour Sochaux, ça fait déjà plusieurs semaines qu'une partie de l'usine, ça concerne à peu près 1 000 000 de salariés, sont régulièrement mis en chômage technique. Sur la paye de juillet, ça a des conséquences très concrètes pour les salariés. C'est une perte de près de 140 euros sur la paye de juillet, puisque le chômage technique n'est plus remboursé, n'est plus indemnisé à 100%. Et ça, c'est vraiment la conséquence de la politique de Carlos Tavares, une politique d'économie à tous les niveaux. Évidemment, sur les effectifs à l'usine de Valenciennes, économie sur les investissements, sur les moyens de production, puisque l'usine de Valenciennes est en train de craquer avec des machines qui sont usées jusqu'à la corde.
Alors économie, d'accord, mais d'habitude, on déplore plutôt les carnets de commandes quand ils sont vides. Là, vous nous dites que des carnets de commandes trop remplis, c'est néfaste pour l'entreprise. C'est difficile à entendre.
Non, non, pas du tout. Non. Les carnets de commandes sont pleins à craquer, ça c'est un constat qui est fait par tout le monde, sauf que pour produire et satisfaire la demande, il faut de l'effectif en face, il faut des moyens de production, des machines qui tournent, des maintenanciers en nombre suffisant pour réparer des machines qui sont déjà délabrées. Et j'étais à Valenciennes lundi matin, on m'a expliqué qu'on peut avoir une machine en panne pendant plusieurs heures sans qu'il y ait un seul maintenancier qui arrive, parce qu'ils sont pris déjà sur d'autres pannes, parce que ces machines sont au bout du rouleau. Elles ne sont pas remplacées, il n'y a pas eu d'investissement dans cette usine, et surtout, il y a eu des plans de suppression d'emplois qui, aujourd'hui, on voit les effets très néfastes, ne serait-ce que sur la production, et c'est une politique de réduction d'effectifs et de réduction des coûts de Carlos Tavares qui se retourne contre lui, qui se retourne contre les intérêts de la direction de PSA. C'est du jamais vu à PSA.
Et pour la CGT, la solution est simple, des embauches, des investissements et des hausses de salaire. Et nous partons maintenant à l'université d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Les entrepreneurs français doivent se préparer au Brexit, mais surtout au possible échec des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est l'avertissement lancé cet après-midi par le patron du MEDEF. Pour Geoffroy Roux-de-Bézieux, il faut anticiper le pire scénario, celui du hard Brexit. Jean-Marc Chardon.
Oui, c'est cela, un appel qui sonne comme un message d'alerte. Un Brexit dur est possible, ce serait le pire. Alors formulé comme cela, il peut donner l'impression d'un avertissement spectaculaire, anxiogène, et en même temps, il est dans l'esprit d'un document que le MEDEF a rédigé au cours des derniers mois, un guide du Brexit où il distingue à grands traits les effets d'un Brexit dur par rapport à un Brexit doux, où les rédacteurs appuient sur les épisodes douloureux qui s'en suivraient. Alors ce ne sont pas seulement les échanges commerciaux qui en pâtiraient, mais toute la politique d'investissement des entrepreneurs, les consommateurs également, les touristes, bien sûr, sans oublier les emplois par centaines de milliers. L'intérêt finalement de l'étude, il est de montrer que les effets d'un Brexit dur ne se réduiraient pas à un simple ralentissement des échanges. C'est déjà la balance commerciale de la France qui serait affectée, vu que c'est avec le Royaume-Uni qu'elle dégage son principal excédent commercial avec 31 milliards d'exportation. Les entreprises de transport seraient sans doute les plus handicapées avec retour des barrières douanières. Des secteurs tels que la chimie, la pharmacie en sortiraient affaiblis. Vivement affectés également l'hôtellerie, le tourisme en général. On dénombre 12 millions de touristes du Royaume-Uni vers la France. Les flux baisseraient et dans la foulée, on peut craindre que ça génère une grande volatilité des prix. Autrement dit, de fortes incertitudes en perspective de quoi contrarier les quelques 3300 entreprises françaises implantées au Royaume-Uni. Alors, entre les lignes, on en déduit que les conséquences seraient sérieusement dommageables pour les entreprises françaises au risque d'assister à un regain de concurrence qui n'arrangerait pas les affaires de part et d'autre.
Jean-Marc Chardon, en direct de Jouy-en-Josas, où l'on retrouvera également l'équipe du Grain à Moudre tout à l'heure. Merci à Yves Lehorse pour la technique. Un nouvel hommage à Vanessa Campos débute dans le quartier de Pigalle à Paris. Vanessa Campos, c'est cette prostituée péruvienne tuée le 16 août dernier dans le bois de Boulogne. Elle avait été abattue alors qu'elle tentait de s'opposer à un groupe d'hommes venus détrousser les prostituées et leurs clients. Un tragique fait divers que dénonce notamment l'association Parité qui soutient les transsexuels et qui organise l'hommage de ce soir. Pour les associations de défense des prostituées, ce drame résulte de la loi sur la prostitution adoptée en avril 2016 et qui a instauré la pénalisation des clients, Florence Thuram.
Oui, le week-end dernier, plusieurs centaines de travailleurs du sexe et de militants associatifs ont déjà dénoncé tout à la fois le silence gouvernemental et les effets pervers de la loi d'avril 2016. La pénalisation des clients obligerait les prostituées à exercer dans des lieux plus isolés, potentiellement plus dangereux. Analyse que ne partage pas Frédéric Boisard de la Fondation Sel. Il est favorable à la loi comme étant un moyen de lutter contre l'exploitation sexuelle.
Je me souviens très bien quand je suis arrivé à la Fondation, les années 2000, il y a eu un décès qui a été très médiatisé à l'époque, qui était celui de Ginka, dont on a fait plusieurs livres depuis, qui était une personne prostituée bulgare, qui était sur le boulevard des Maréchaux, qui avait un proxénète et puis qui a été agressé parce qu'un type voulait lui voler son sac à main, il l'a poignardé, il l'a tué. À cette époque, il n'y avait pas encore la loi Sarkozy, donc on n'avait pas encore le délit de racolage passif. Et on n'avait pas non plus la loi de lutte contre le système prostitutionnel. Et pourtant, il y avait déjà des personnes prostituées assassinées. Je pense que là, en l'occurrence, on a affaire à une bande de meurtriers qui sont venus pour rançonner ou des personnes prostituées ou des clients. Et puis, bah, ça s'est mal passé parce qu'elles se sont rebellées. Ce que je vois de ce triste fait divers, qui n'est pas qu'un simple fait divers parce qu'il y a une personne qui est disparue, c'est que la police, quand même, qui n'a sans doute pas été là pour protéger Vanessa, derrière, on peut aussi se féliciter de la rapidité de l'enquête et de l'arrestation finalement des coupables. Et on espère qu'ils vont payer leur crime.
Cinq suspects ont en tout cas été mis en examen et écroués pour meurtre en bande organisée. Mais l'arme du crime reste à ce stade introuvable et son origine pose aujourd'hui question. Selon le Canard enchaîné, il pourrait s'agir d'un pistolet dérobé à un policier dans ce même bois de Boulogne par ces mêmes malfaiteurs. À ce stade, le parquet de Paris se refuse à tout commentaire.
Florence Thiam. Depuis le lancement de la Coupe du Monde, la grogne montait en Russie, pas à cause du football, mais parce que le 14 juin, le Premier ministre avait annoncé une sévère réforme des retraites, prévoyant notamment d'augmenter l'âge du départ à la retraite à 63 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Depuis, des milliers de Russes sont descendus dans les rues et la cote de popularité de Vladimir Poutine a chuté. Le président a donc jugé bon de réagir, d'essayer de calmer les esprits. Il a annoncé aujourd'hui un assouplissement de sa réforme. Les précisions de Claude Bruyot à Moscou.
Vladimir Poutine a joué celui qui fait à la fois œuvre de bienveillance et entend les récriminations du pays en annonçant notamment donc qu'il ramène à 60 ans au lieu de 63 ans prévu initialement par la réforme l'âge légal du départ à la retraite pour les femmes russes. Le maître du Kremlin espère sinon éteindre du moins réduire les mouvements de protestation qui n'ont pas cessé au sortir de l'été, notamment du côté des communistes encore appelés à défiler dimanche prochain à Moscou. Vladimir Poutine a également annoncé pour faire passer la pilule, selon l'expression même de son opposant principal, Alexei Navalny, que les pensions retraite, qui sont de 180 euros en moyenne par mois en Russie, augmenteraient de 13 euros chaque année pendant 6 ans. Pas certain, en revanche, que ces assouplissements suffiront à modifier le système. D'après un sondage du Centre d'études indépendant Levada, un retraité russe sur deux travaille ou a travaillé dans un passé récent pour compléter sa faible pension. Au final, l'aile libérale du pouvoir a tout de même gain de cause. Dans son monologue télévisé de 30 minutes, Vladimir Poutine l'a redit, ne rien changer aurait conduit les finances publiques à vivre dangereusement sur des emprunts. La manne pétrolière et gazière ayant d'autres finalités que celle d'augmenter les pensions.
Claude Bruyot, correspondant de France Culture en Russie. Viktor Orban et Matteo Salvini posaient sur la même photo hier à Milan et le Premier ministre hongrois et l'homme fort du gouvernement italien, tous les deux partisans de la ligne dure contre les migrants, se sont trouvés un ennemi commun, le président français. Il y a actuellement deux camps en Europe et l'un est dirigé par Macron, a affirmé Viktor Orban. Il est à la tête des forces politiques soutenant l'immigration. De l'autre côté, il y a nous qui voulons arrêter l'immigration illégale. Emmanuel Macron, qui poursuit actuellement sa tournée en Europe, leur a répondu aujourd'hui depuis Copenhague, il endosse volontiers ce rôle d'opposant qui lui est attribué.
Si on considère qu'il y a en France l'ennemi en effet du nationalisme, du repli sur soi, de la politique de haine et d'une politique qui consiste à dire que l'Europe est ce qui doit payer, ce qui nous arrange, mais n'impose aucune forme de responsabilité, de solidarité, ils ont raison. Et je ne céderai rien sur ce que sont nos valeurs. Je ne céderai rien. Et je le dis avec beaucoup de calme. Et je ne suis pas quelqu'un qui est pour une politique de facilité, vous le savez. Nous aurons dans les prochains jours et les prochaines semaines à prendre des décisions en profondeur pour traiter du sujet des migrations, qui n'est pas un sujet qui est arrivé hier et que nous allons avoir à vivre collectivement pendant des décennies. Il suppose le sérieux, l'esprit de responsabilité, mais d'être attaché à nos valeurs, à ce que nous devons, ce qui est dans notre constitution en France, par exemple le droit d'asile, mais à avoir une vraie politique avec les pays d'origine, à l'égard de nos frontières et en interne. Ce n'est pas ce que propose M. Orban ou M. Salvini. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes.
Emmanuel Macron, propos recueillis par Quentin Dickinson avec Benjamin Thuot à la technique. Quentin, vous qui suivez l'actualité européenne et donc le voyage d'Emmanuel Macron en Europe du Nord, ce qui vous a frappé, c'est que la campagne pour les élections européennes qui se tiennent en mai prochain a déjà commencé.
Oui, c'est sans précédent, Aurélie, depuis les premières élections européennes au suffrage universel direct en 1979. Dans aucun des 27 pays qui enverront au printemps prochain les 705 députés au Parlement européen, les listes de candidats ne sont-elles prêtes. Mais la campagne, elle, a déjà et assez brutalement commencé. Et on en aperçoit déjà les contours. Ce sera réformateur pro-européen contre national populiste. Le premier camp a clairement pour animateur Emmanuel Macron. Le second est l'affaire du Premier ministre hongrois Viktor Orban et du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, qui au cours de ces dernières semaines ont nettement pris le pas sur les mouvements d'extrême droite existants, débordés sur leur droite et contraints de suivre le mouvement. Et le premier thème sur lequel les partis s'affrontent déjà, c'est celui de la gestion des flux migratoires imposés par les nationales populistes qui estiment pouvoir l'exploiter à leur bénéfice. En face, On pense que d'ici aux élections européennes, les solutions simplistes qu'ils prônent auront fait la démonstration de leur totale inefficacité et l'on se félicite même que leurs adversaires soient au pouvoir, dans l'impossibilité donc de se défausser sur autrui. Et l'on note que messieurs Orban et Salvini sont déjà en flagrante contradiction l'un avec l'autre, le premier refusant tout immigré chez lui, alors que le second exige que les autres pays européens, dont logiquement la Hongrie, se répartissent les migrants débarqués en Italie.
Quentin Dickinson, merci. C'est un massacre longtemps oublié, mais il est considéré aujourd'hui par certains historiens comme le premier génocide du XXe siècle. En 1904, dans le sud-ouest africain, l'actuelle Namibie, des peuples privés de leurs terres et de leur bétail se révoltaient contre la puissance coloniale allemande. La répression avait alors tourné à l'extermination et des dizaines de milliers de Herero et de Nama avaient été tués par les troupes allemandes alors qu'ils tentaient de fuir au Botswana. Aujourd'hui donc, lors d'une cérémonie religieuse à Berlin, l'Allemagne a remis à une délégation namibienne des ossements des membres des tribus Herero et Nama dans un geste de réconciliation. Le reportage de Nathalie Versieux.
Il est 10h30 à Berlin ce matin et la cérémonie religieuse vient de débuter, dirigée par deux religieux, une allemande et un namibien. Au cœur de la cathédrale, le cercueil contenant les ossements des victimes du génocide est recouvert du drapeau namibien et entouré de fleurs. On chante beaucoup pendant la cérémonie. Les femmes ont revêtu leur costume traditionnel, vaste jupe de soie rouge, assortie à une coiffe de même étoffe, caraco noir brodé. La délégation namibienne compte quelque 45 personnes. Dehors, autant de descendants des Herero et des Nama, massacrés voici plus de 100 ans par la puissance coloniale allemande, n'ont pu entrer dans la cathédrale. Pour ces activistes, le processus allemand de reconnaissance du génocide ne va ni assez vite ni assez loin. Israël Konatieke réclame une cérémonie officielle au Bundestag, des excuses de la part de l'Allemagne.
À cause de l'extermination, les Herero ont tout perdu. Leurs biens ont été confisqués. Leurs terres ont été confisquées. Ils vivent aujourd'hui dans la misère. On veut récupérer nos terres.
Ces activistes ne se sentent pas représentés par le gouvernement namibien dominé par d'autres ethnies et qui négocie en ce moment même avec Berlin sans les associer aux discussions.
Nathalie Versieux à Berlin. L'Argentine obtient le soutien du FMI. Confrontée à une grande volatilité de sa monnaie et à une forte chute du peso, le pays est en difficulté, d'où l'importance de cet accord conclu avec le Fonds monétaire international. En juin, le FMI avait accordé un prêt de 50 milliards de dollars à l'Argentine. Il accepte maintenant d'avancer ses versements pour soutenir le programme économique. Le Venezuela, lui, est plongé dans une crise bien plus profonde, crise politique, économique et sociale qui a entraîné le départ de dizaines de milliers de Vénézuéliens dans les pays voisins au cours de ces derniers mois. Une crise migratoire qui a des conséquences sur la Colombie, le Pérou et aussi le Brésil. La présidence brésilienne a d'ailleurs décidé d'envoyer des renforts militaires à sa frontière nord, dans l'état du Roraima, un état où vivent 30 000 Vénézuéliens, dont une bonne part dans des abris ou dans la rue. Brasilia s'engage également à déplacer plus de réfugiés vers d'autres états brésiliens, pourvoyeur de main-d'œuvre. Pourtant, Roraima accuse le gouvernement fédéral de laisser la situation s'envenimer sur place, alors que Michel Temer s'était engagé à déplacer 20 000 réfugiés. Seuls 1 000 d'entre eux l'ont vraiment été depuis mars dernier. On retrouve Anne Vigna à Rio.
Des renforts militaires mais aussi sanitaires, voilà la réponse du gouvernement fédéral aux demandes pressantes des autorités locales du Roraima pour faire face à l'afflux de réfugiés vénézuéliens. Brasilia envoie donc des militaires, des médecins et promet de construire au plus vite un nouvel hôpital sur place. Un geste cependant jugé insuffisant par la gouverneure locale qui demande à nouveau au gouvernement fédéral de fermer les frontières. En pleine campagne pour sa réélection, madame la gouverneure a opté pour un discours de fermeté contre les réfugiés, même si elle sait parfaitement que la fermeture de la frontière est impossible. La Cour suprême brésilienne a en effet déjà rejeté ce mois d'août cette demande du gouvernement du Roraima. Mais l'État du Roraima applaudit la récente décision péruvienne de demander aux réfugiés un passeport pour rentrer sur leur territoire. Sans papier pour leur confection, les passeports ne sont plus imprimés à Caracas. Demander un passeport aux Vénézuéliens revient de facto à leur fermer la frontière. Le Brésil avait aussi voulu demander un passeport aux réfugiés pour accéder aux services de santé. Une demande qui n'a duré que quelques jours. Beaucoup de réfugiés sont des mères de famille qui emmènent leurs enfants au Brésil pour se faire soigner. La plupart ne restent que le temps du traitement et rentrent au pays. Mais ces services humanitaires sont déjà une soupape très importante dans cette crise, dont on craint, et sans doute avec raison, une intensification dans les prochaines semaines.
Depuis le début du mois, plusieurs foyers de choléra se sont déclarés en Algérie. Les autorités sont accusées de négligence et elles n'ont toujours donné aucune explication sur l'apparition de la maladie. À Alger, Leïla Berato.
Le dernier bilan est de 59 cas confirmés et 172 personnes hospitalisées dans 5 régions du centre du pays. 2 patients sont décédés et un troisième décès est considéré comme possiblement lié à la maladie en attendant les résultats d'analyse. Dans la région la plus touchée, Blida, à 50 km au sud d'Alger, les services de santé ont déclenché un plan d'urgence et isolé une aile de l'hôpital pour accueillir les patients. Là-bas, on a eu confirmation du premier cas dès le 17 août, mais le gouvernement a mis 6 jours supplémentaires pour réagir publiquement. Et une semaine après l'annonce officielle de l'apparition de l'épidémie, toujours aucune certitude sur les causes. Après avoir évoqué une source d'eau dans la région de Tipaza, le ministère de la Santé a invoqué l'irrigation des exploitations agricoles qui se ferait avec des eaux usées. Le lendemain, le ministère de l'Agriculture démentait, assurant que cela ne pouvait en aucun cas être lié. Les autorités répètent que l'eau courante n'est pas le vecteur de la bactérie, mais dans certains quartiers, on n'y croit pas et il y a, dans plusieurs zones, une ruée sur l'eau minérale.
Le temps sera souvent nuageux demain jeudi. Il faudra compter avec quelques averses, voire des orages sur les reliefs. Les températures minimales iront de 10 à 22 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera de 17 à 23 sur la moitié nord, de 22 à 32 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.